France Inter. Le masque et la plume. Bonjour et bienvenue à Lyon pour la 21e édition du plus grand festival européen de littérature policière, à savoir Quai du Polar. Cet épisode du Masque, qui se déroule face au public du théâtre Comédie Odéon, va donc être entièrement consacré au roman policier avec Arnaud Vivian de la revue Regard.fr et animateur de Tirelire, émission littéraire en ligne de cette revue, Elisabeth Philippe du Nouvel Obs, Patricia Martin de France Inter, que vous retrouvez chaque vendredi à 20h pour leur philo, et Bernard Poirette, auteur du podcast C'est à lire, qui vous recommande un polar. Chaque vendredi, 125 autrices et auteurs de 17 nationalités différentes sont présents à Quai du Polar. Et aujourd'hui, la géographie du masque vous mènera de Los Angeles aux îles Marquises, en passant par Oslo, Berlin et Lyon. Michael Connelly, Jackie Schwartzman, Aslak Nord, Séverine Chevalier et Marin Ledin sont les autrices et auteurs de notre programme. Bonjour et bienvenue, c'est Le Masque à Quai du Polar. Que Le Masque soit en tournée à Lyon, Brive ou Avignon, la conversation se poursuit entre vous et nous. Et par ailleurs, mes excuses si face à la masse de courriers, certains messages restent sans réponse. Cette semaine, beaucoup de mails réagissent aux propos tenus lors du débat consacré au premier roman d'Adèle Yon, Mon vrai nom est Elisabeth, roman dans lequel l'autrice mène une enquête familiale sur son arrière-grand-mère schizophrène. Je viens d'apprendre en vous écoutant à l'instant que les schizophrènes ne savent pas écrire de belles lettres, écrit Marie de Marigny-les-Compiègnes. Je suis moi-même schizophrène et vous prie de croire que mes enseignants ont toujours loué mes qualités rédactionnelles. Je vous informe qu'avec ce type de phrase, c'est 1% de la population que vous stigmatisez. À plusieurs témoignages se sont ajoutés les mails de psychiatres, psychanalystes et personnels soignants précisant que 600 000 personnes vivent aujourd'hui avec la schizophrénie en France et que, je cite, « la schizophrénie est un trouble complexe qui n'empêche ni de vivre, ni de rêver, ni de créer ». Pour revenir à ce roman, Mon vrai nom est Elisabeth, je précise qu'il fait partie des 10 derniers textes en lice pour le prix du livre Inter. Mauvais élève de Philippe Villain est l'autre roman qui vous a conduit à nous écrire. Sur Instagram, la personne qui tient le compte, la lectrice avisée, estime que Le Masque n'a pas rendu justice à Mauvais élève, livre enthousiasmant, je cite, par ses accents de vérité. L'expression « grande bourgeoise » concernant Annie Ernaux n'est pas méprisante, pas plus que « bobo parisien du masque ». Et d'ailleurs, merci pour vos émissions de pétillant bobo parisien. Sur Instagram encore, Noam écrit « En racontant son parcours et sa relation avec Annie Ernaux, Philippe Villain vient d'inventer un truc, la transfugité, définition non féminin, qui désigne un nouveau marché concurrentiel où il est question de savoir qui fut plus pauvre que l'autre ». Sur Insta, enfin, Pierre de Lyon m'adresse une suggestion. Comme c'est le premier masque à Quai du Polar, peut-être pourriez-vous hurler « Salut à toi, Lyon !» à la fin de la séquence courrier. Salut à toi, Lyon ! Depuis Quai du Polar, donc, bienvenue à Los Angeles, avec « À qui sait attendre », dernier roman de l'Américain Michael Connelly, qui publie un voire deux livres par an, et ce depuis 3 décennies. Plusieurs personnages connus de la galaxie Connelly sont en scène. René Ballard, flic, mais aussi surfeuse. Harry Bosch, évidemment, inspecteur inventé il y a 30 ans, désormais à la retraite, mais que René appelle à l'aide. Et il y a Maddie, fille du vieil Harry, qui intègre l'unité des affaires non résolues, « cold case », en anglais dans le texte. Dans ce roman, il n'y a pas une, mais 3 affaires. Celle d'un violeur en série qui a terrorisé Los Angeles pendant des décennies, celle d'un projet d'attentat fomenté par l'extrême droite américaine, et la 3e affaire est un fait divers devenu culte, c'est l'affaire du Dahlia Noir, soit le meurtre atroce de la starlette Elizabeth Short en 1947. Et Connelly l'écrit lui-même, concernant l'affaire du Dahlia Noir, on a le livre de James Ellroy, celui d'un ex-flic qui dit que son père est l'assassin, tout un tas de théories. Et voilà que Connolly romance la sienne. Arnaud.
C'est un scandale. Totalement un scandale. Bon, ça tombe bien, j'ai l'intention de boycotter les produits américains jusqu'à nouvel ordre. Donc,
je l'attendais.
C'est un pur produit, hein, cette énième livraison de Michael Connelly et d'une paresse avec ses trois arches narratives. Quand dans n'importe quelle série aujourd'hui, il y en a au moins le double ou le triple, ça, on est habitué à suivre quand même plusieurs histoires maintenant grâce aux séries télévisées. Donc lui, il fait ça, ce truc hyper paresseux. Et puis, il y a ce scandale du Dahlia noir. Donc vous avez la stagiaire qui arrive. On apprend au passage que ces gens travaillent gratuitement sur les colquets.
Oui, ils sont bénévoles.
Hein, on se demande pourquoi ils ont élu Elon Musk qui doit faire des économies et qu'ils travaillent déjà gratuitement, les Américains, sur les colcaises. Franchement, il y a un problème avec la politique américaine en ce moment, très 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 clairement. Donc la stagiaire arrive, elle ouvre le placard et dit oh bah, c'est quoi ces gros cartons là? Ah bah ça bah, c'est l'affaire de Dahlia noir. Ah bah attends, je vais te résoudre ça en deux coups de cuillère à peau. Alors là quand même, c'est quand même scandaleux dans la mesure où le Dahlia noir, donc il y a eu des centaines de livres sur le sujet, des hypothèses qui sont magnifiques, aucune n'a été prouvé. Il y en a une qui mêle le surréaliste Man Ray, voire même Marcel Duchamp, puisqu'on pense que sa dernière pièce, étant donnée, est une révélation sur l'affaire du Dahlia noir. Donc vous voyez, il y a de quoi imaginer. Et non, là, c'est cool. On a trouvé des traces de sang dans le garage. Et donc, c'est bon, c'est réglé. Non, mais ça va pas du tout. Je veux dire, c'est vraiment un crime de lèse-majesté envers le roman policier et la mythologie que peut représenter Dahlia noir.
Pendant ce temps, Patricia Martin lève les yeux au ciel. Je t'ai vu, hein, Patricia.
Bah, une fois de plus, je suis pas d'accord avec le Vivian. Hein, tu me pardonneras, mais heureusement qu'il y a le Dahlia noir parce que je trouve que ça détend au moins.
Ah oui.
Parce que c'est une,
oui, une femme qui se fait couper en deux.
Emblématique, ancienne, mais qui a été, comme tu l'as rappelé, si abondamment traitée par Ilroy notamment, et il en parle à un moment donné, qu'on pourrait croire que c'est une fiction. Donc ça permet de prendre un petit peu de recul. Mais l'histoire, je suis désolée, l'intrigue ne se résume pas à une armoire dans laquelle il y a quelques cartons.
Pas loin.
Pas
loin.
Oh non, vous exagérez.
Merci, camarade, de me soutenir. Non,
moi, je suis pas d'accord. Je trouve que les personnages sont vachement bien, que Ballard, elle me plaît, cette bonne femme. D'ailleurs, elle va une fois par semaine chez le psy. Il n'y a pas énormément de flics qui font ça. Et là, dans ce cabinet, qu'est-ce qu'elle croise? Elle croise des jeunes entrepreneurs américains qui sont atteints de paranoïa de la compétition et qui sont atteints de troubles du sommeil. J'espère que ce pays malade n'est pas contagieux. Non, moi, je trouve que tu dis que c'est pas un livre de paresseux. Bon, il sait peut-être pas, effectivement, creuser la cervelle de façon exagérée pour inventer une histoire.
Enfin,
il y a quand même des scènes, tu vois quand même ce que c'est que ce pays de pauvres, de très pauvres, quand ils sont sans abri et qu'en plus ils deviennent terroristes, eh ben t'as les jetons, qu'il y a des gens qui veulent pas payer leurs impôts, qui portent des armes à tire-larigot, qui ne respectent en rien la loi. C'est une cocotte minute, il y a quelque chose de pourri dans ce pays, il l'écrit et il le montre très bien. Et ce qui fait que même les flics sont mis en défaut, puisqu'il y a les trois quarts des flics qui veulent pas regarder quand il y a des bagnoles avec des plaques d'immatriculation, enfin qui leur il regarde ailleurs. Bah, je trouve que c'est pas rassurant.
Mais non.
Bernard, t'as trouvé ça paresseux, toi?
Vous êtes d'une indulgence avec Connelly, absolument.
Voilà que tu me vois maintenant.
Ce type.
Mais on est à Lyon, c'est pour ça.
Tous les 9 mois, un bouquin depuis 30 ans, donc sur le tas, il y a forcément un déchet considérable.
C'est pas un déchet,
celui-là. Celui-là est à mettre au rebut instantanément.
Mais c'est pas vrai.
Mais bon, Connelly, c'était il y a des années, ou au mieux, c'était L'Étoile du désert il y a 4-5 ans, ce qui était le dernier lisible.
Enfin, que
maintenant, c'est quasiment de l'écriture automatique, comme les mecs qui se faisaient réveiller la nuit pour écrire comme ça. On se demande comment il écrit, Connelly, enfin c'est infernal, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Qu'est-ce que c'est que ça, la fille de Bosch qui meurt de son crabe là sur sa colline, qui devient flic, alors elle se fait embaucher gratos, hein, puisque c'est gratuit au service des affaires non résolues, et puis effectivement, dans le cadre d'une autre enquête, elle est tombée sur un carton avec des documents extraordinaires qui résolvent l'affaire du Dahlia noir qui est en suspens depuis 1947. Non, il a raison, c'est paresseux, et mais quitte à avoir une idée de ce qu'est
l'Amérique aujourd'hui. C'est bien fichu, c'est bien écrit, c'est bien construit.
Élisabeth.
C'est pas bien fichu, c'est extrêmement lent. Ça s'appelle « À qui sait attendre ». Ben oui, il faut vraiment savoir faire preuve de patience parce que c'est lent.
D'où vient ta point ?
À un moment, on a l'impression qu'on lit en fait des instructions d'un GPS. Il nous donne toutes les sorties d'autoroute que prennent les personnages. C'est très très pénible. Et alors il y a un personnage qui est formidable, qui s'appelle Colline, donc qui est une des bénévoles de ce service, qui est d'ailleurs appelée le radeau. Ça veut tout dire, à mon sens. Et alors Colline, donc c'est une femme au foyer, et puis pour se trouver une occupation, elle a rejoint cette unité des affaires non résolues.
Elle a un talent quand même.
Elle a un talent, elle sait chercher sur Internet. Et alors, elle arrive à retrouver un suspect en faisant comment ? Sur LinkedIn. Alors moi, je me dis, franchement, Xavier Dupont de Ligonnès, à mon avis, il suffit de regarder sur Copain d'avant et on le retrouve. Non, non, mais ça, c'est vraiment...
Non, c'est paresseux, c'est paresseux.
Rebecca, si tu le permets, j'en appelle aux auditeurs qui vont lire ce livre et qui vont aimer d'écrire... Pour leur dire ce qu'il en est à ces trois-là.
Rendez-vous pour la séquence courrier de dans 15 jours. « À qui sait attendre » de Michael Connelly est publié chez Kalman Levy et traduit par celui qui a fait découvrir Connelly en France, à savoir Robert Pépin. Des cold cases de Los Angeles, nous passons au récit intime de Théorie de la disparition, cinquième roman de Séverine Chevalier. La narratrice est une femme de... Séverine Chevalier dédie d'ailleurs son livre aux femmes d'eux, celles qui existent dans l'ombre et pas pour elles-mêmes. Elle se prénomme Mylène et elle est femme de Mallory, un auteur de polar à succès. Mylène veille à ce que rien n'encombre son écrivain de mari. Elle l'accompagne à un festival de polar à Toulouse, dans une résidence d'écrivains en Normandie, résidence installée pas loin d'une centrale nucléaire sur laquelle Mallory souhaite enquêter. Et un jour, Mylène disparaît, pas loin. Juste en dessous, dans le sous-sol de la résidence. C'est là que Mylène se met à écrire le livre que nous avons entre les mains. On entre dans le flux de ses pensées qui raconte la disparition de plusieurs proches et leur réapparition avec les mots de Mylène. Bernard, est-ce que tu as été sensible à cette théorie de la disparition ?
Absolument pas, et dans ton cours... Dans
non,
ton cours préambule,
pas.
tu m'as éclairé. Je n'ai rien pigé à ce bouquin que j'ai apporté. Dieu merci, c'est un tout petit livre qui se lit en deux heures. Alors, d'abord, il n'a rien à faire dans cette émission.
Mais si.
Ni un roman noir, ni un roman policier, donc on ne sait pas pourquoi il est là.
Attends, Quai du Polar s'intitule Frontières qui décloisonne les genres entre la littérature noire et la littérature blanche. Donc,
bien envoyé.
Ce livre de Séverine Chevalier a tout à fait sa place dans le programme.
Bon, en tout cas, moi, je n'ai rien pompé à ce truc-là. Alors, je m'en suis ouvert à d'autres gens qui ont fait plus d'études que moi et qui l'ont lu et qui m'ont dit nous n'avons rien pompé nous non plus à la première lecture, mais à la deuxième tout est limpide. Alors je leur dis non, on va pas en plus
et
se taper
moi je
deux
leur
fois.
Dis si, ils ont raison tes
non,
copains
non.
C'est exactement ce que j'ai
fait. Pas parce qu'il faut le lire deux fois
au moins.
Non. Alors attendez, le problème, je suis très très ennuyé avec ce livre parce que donc il m'a pas plu et pas intéressé.
On a
mais
compris.
Je reconnais qu'il y a des moments d'écriture étonnants. Juste une phrase, je voulais vous en lire plus long, mais je laisse la place à tous ceux qui ont aimé. Donc, Mallory dit toujours, deux points, ouvrez les guillemets, « Si on veut écrire, alors il faut n'écrire pour personne, même pas pour soi. Il faut écrire, car ce qu'on doit écrire doit être écrit. » Ça a de la gueule quand même. Non mais c'est bien, non mais je rigole pas, là, pour une fois, je rigole pas. Voilà, donc, il y a des beaux moments de texte, et puis le reste, non. Voilà.
Arnaud ?
Ah mais j'ai trouvé ça génial.
Ah, je t'aime toi alors.
J'ai trouvé ça génial. C'est pas un roman à intrigue, c'est un roman intrigant, ce qui est mille fois mieux. Moi aussi, ça m'est tombé des mains plusieurs fois et à chaque fois je l'ai ramassé. Et j'étais encore plus intrigué. Et en fait, comme c'est effectivement un petit livre, je ne l'ai pas simplement lu, je l'ai parcouru dans tous les sens. Parce qu'on est à la recherche d'indices, quoi. Parce qu'il y a une très, très grande ironie. Ça m'a fait penser à un livre que Patricia et moi aimons beaucoup, qui est « Mon mari » de Maud Ventura. Parce que
on va finir par se marier toi et moi.
Donc
c'est
voilà.
Prévu. C'est
et donc,
prévu.
Parce que l'énonciation, c'est justement l'épouse de Mallory. Mais alors Mallory, franchement, d'un point de vue sociologique sur le monde du polar français d'aujourd'hui, hein, Mallory qui à la fois reçoit plein de prix, hein, il est couvert de prix de polar. Et
Parle comme on énonce des sentences.
Voilà, et en même temps il est malheureux parce qu'il doit quand même, pour gagner vraiment sa vie, écrire pour des séries télévisées. Elle se planque au sous-sol pour lire Simenon, parce qu'il a un rapport délicat avec Simenon qui est un véritable écrivain, parce qu'on sent, tout ça, la description de Festival du Polar est quand même d'une malice sociologique digne de vraiment d'un grand écrivain, quoi. J'ai vu que cette dame avait déjà publié, mais je trouve que ce livre a la perfection d'un premier roman, au sens où c'est à la fois la théorie d'une disparition, mais la théorie d'une apparition d'une femme qui commence à écrire et qui écrit d'une manière, mais alors totalement hors norme. C'est un livre extraordinaire.
Elisabeth.
Oui, ça pourrait aussi s'appeler Les carnets du sous-sol, sauf que, à la différence du narrateur de Dostoïevski, elle n'est pas dans la hargne, mais effectivement, c'est vraiment en descendant au plus profond d'elle-même et en descendant dans cette cave qu'elle va réapparaître.
C'est ça aussi qui est assez et intriguant et passionnant, pardon Bernard, mais que c'est le récit d'une émancipation sans révolte ni colère.
Exactement.
Oui, avec ça, une forme de détachement.
C'est très troublant, il y a énormément de scènes...
Pourquoi est-ce qu'ils sont au sous-sol de la centrale nucléaire de Cîteaux?
Mais pourquoi pas?
On t'expliquera.
Mais pourquoi pas? Au-delà de l'intrigue, alors je dois donner raison à Bernard, c'est vrai que parfois c'est un peu nébuleux, dirons-nous pudiquement, mais je trouve que ça participe du charme du livre, et surtout moi j'ai été séduite par la recherche littéraire en fait de ce livre. Dans les premières pages, il y a un clin d'œil à Pérec, évidemment, la disparition, puisque la machine à écrire qu'elle utilise, ou l'ordinateur, je ne sais plus...
Il y a la lettre E.
Il manque la lettre E sur le clavier, exactement, comme dans le Lipogramme, donc la disparition de Georges Perec. Il y a aussi un clin d'œil à Calvino avec la litanie de Si. Donc on sent quand même qu'elle s'inscrit dans un registre extrêmement littéraire. Parfois, il y a même comme des sortes de calligrammes. Il y a une page où il y a 5 fois le mot tombe, pour vraiment marquer la chute comme ça. Donc j'étais assez séduite. C'est vraiment intriguant, comme le disait Arnaud. Puis il y a cette scène qui fait tout basculer, qui est très très étrange. Cette rencontre que fait cette femme qui se décrit elle-même comme un animal de compagnie pour son mari. C'est quand même extrêmement violent. Et tout d'un coup, à l'occasion de ce festival du polar, elle se retrouve dans les toilettes du restaurant et là, elle tombe sur une personne, quelqu'un qui balaie les toilettes.
Et sur ses lèvres,
sa
bouche, sur laquelle est faite une fixette.
Elle scotche complètement sur ses lèvres et c'est à partir de cet événement que tout va basculer. Donc effectivement, il y a quelque chose d'un petit peu...
Lynchien.
Oui, j'allais dire lynchien, exactement. Avec toutes ces scènes qu'on ne sait pas forcément remettre dans le bon ordre, mais c'est assez, assez fascinant.
Alors, est-ce que Bernard va être seul ou pas, Patricia?
Il va être tout seul.
Elle était toute seule sur Connelly, moi je suis
exactement.
Seul sur Sommelier.
Voilà. Moi j'ai l'habitude de la solitude, on s'en parlera hors antenne, tu verras.
La solitude est votre destin.
Je comprends très bien que tu aies eu cette première réaction, mais il faut se méfier de ces premières réactions. Moi aussi, je l'ai lu une fois et ça m'a carrément horripilé. J'ai trouvé que le style m'était hostile. Il y a une ponctuation bizarre, tu te dis pourquoi tout à coup à la fin d'un chapitre il y a une virgule. Page 14, il y a pour un seul sujet, il y a 32 verbes à la queue leu leu qui se rapportent aux mains. Tu te dis mais au secours, où est-ce que je suis tombée? Donc je l'ai lu, j'étais bien énervée, mais je l'ai laissé. Et puis je l'ai repris quelques jours plus tard. Et là, je me suis dit, y a peut-être des sacrées belles choses et des choses à comprendre. Quand tu parlais tout à l'heure de Mallory qui pense qu'on écrit pas pour quelqu'un, mais on écrit point, elle pense exactement le contraire. Elle dit qu'une écriture doit toujours être adressée, même à quelqu'un qui comprendrait mieux ce qu'elle veut écrire qu'elle, mais ça n'arrive jamais. Mais je trouve que c'est un nœud qui se délie. Là, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Il y a des passages sur ses parents, sur la texture d'une peau qui vieillit, sur la maladie, sur la mort et sur le fait que quand son existence est faite d'un contour de
ça, c'est
de
très
blanc.
Très beau.
C'est
un livre. C'est un livre justement sur les personnes dont le visage n'est qu'un contour avec du blanc au milieu.
Dont cette petite fille qu'elle voit dans la maison d'Isieux où elle qui n'existe plus, qui n'a plus sa photo. Et moi, ça me fait frissonner.
Théorie.
14,90. 14,90 €.
Tu salis tout.
160 pages.
Théorie de la disparition de Séverine Chevalier est publiée à la Manufacture de livres.
À lire deux fois.
Changement de ton avec Jackie Schwartzman, dont le nouveau roman s'intitule Bastion. Le récit est mené par Jean-Marc Balzan, qui dit, je cite, avoir rejoint un groupe de reclus, à savoir les retraités. Jean-Marc, et je cite encore, ce qu'on appelait autrefois un socialiste, orphelin politique aujourd'hui. Il regarde BFM TV avec consternation et regrette qu'Alain Souchon soit un artiste sous-estimé. Mais surtout, Jean-Marc a un ami d'enfance, il se prénomme Bernard, et lui souhaite la victoire d'Éric Zemmour à la présidentielle. La nouvelle compagne de Bernard s'inquiète de la violence du Bastion, groupuscule militant d'extrême droite que Bernard fréquente. Elle demande donc à Jean-Marc d'infiltrer le Bastion pour protéger Bernard. À travers le regard et les péripéties de son anti-héros, Jackie Schwartzman nous fait entrer dans le milieu de l'ultra-droite lyonnaise, du militant de base à ses têtes pensantes, en passant par un flic chargé de leur surveillance. Ce, avec la gouaille qu'on connaît, Jackie Schwartzman. Y as-tu été sensible, Elisabeth ?
Alors, sur le papier, ça avait beaucoup de choses pour me séduire. Je trouvais ça assez prometteur, cette histoire de retraité infiltré dans ce groupuscule d'extrême droite. Et puis, l'exécution, je trouve qu'elle laisse un peu à désirer déjà parce que c'est un texte qui se veut politique. Jean-Marc a beaucoup de réflexions politiques. Jean-Marc, de toute façon, parle beaucoup, a un avis sur tout, il sait tout sur tout, c'est un peu pénible. Mais sauf que les analyses qu'il nous livre, c'est quand même un peu du niveau du café du commerce et un peu bas du front, sans mauvais jeu de mots. Si analyser l'origine du vote Zemmour, c'est dire c'est la frustration et l'humiliation, ça va pas très loin, on n'avait pas besoin de Jean-Marc pour nous l'apprendre. Il y a une volonté de donner un peu dans le sociologique façon Houellebecq avec des pages et des pages sur les super-U, mais c'est totalement gratuit, ça ne mène nulle part. Et puis surtout, c'est truffé de jeux de mots. Alors, moi, c'est pas une gouaille, hein, c'est vraiment des jeux de mots vaseux. À un moment, Jean-Marc est fasciné par les coupes de cheveux des nazillons et il imagine les noms des salons de coiffure qui exécutent ces horribles coupes de cheveux rasées derrière.
Tu vas dire ça.
Et notamment, il imagine un coiffeur qui s'appelle la coupe de ton Shoah. Or non, je trouve pas ça super drôle. Et puis, alors, il se croit très malin quand il dit, en parlant de BFM TV, les guignols de l'info ont cédé la place à l'info des guignols. Oui, bon, bah super. Et puis, c'est rempli d'incohérences. Vraiment, le personnage, même au niveau psychologique, là, le personnage de Jean-Marc est absolument pas crédible. Il se passe quelque chose de très, très grave, de très dur. Il devrait être vraiment au bout de sa vie et au bout du rouleau et pleurer toutes les larmes de son corps. Ça lui fait ni chaud ni froid. Ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, pour parler comme Jackie Schwartzman ou comme Jean-Marc.
Ou Chirac.
Ou Chirac, voilà. Et non, ce qu'il y a de plus drôle dans le livre, en fait, c'est une coquille. C'est un moment, Jean-Marc, je sais plus s'il sort d'un braquage, parce qu'en plus, c'est James Bond, il sait tout faire, il sait braquer des armes, des kalachnikovs, etc., sans aucun problème. Et à un moment, il dit, ils ont voulu me museler, il voulait dire me circonscrire, mais il y a écrit me circoncire. Donc là, moi, c'est ce qui m'a fait le plus rire dans ce livre.
Elisabeth, correctrice de roman du Masque et la Plume. Arnaud ?
À la base, il y a une très belle histoire d'amitié. Ce sont deux hommes qui se connaissent depuis...
La maternelle.
La maternelle. Ils sont maintenant retraités. C'est vraiment les deux meilleurs potes du monde.
À la vie, à la mort, comme on dit.
L'un, est socialiste. Il a voté Anne Hidalgo à la présidentielle. Vous voyez, ça fait rire.
2%,
on le dit. Il ça suffit de dire, il a voté Anne Hidalgo à la présidentielle. Tout le monde rit. On en est là.
Mais ça ne se produira plus.
Et son meilleur pote est en train de devenir zémourien. Alors évidemment, vu l'actualité récente, le livre vient de prendre un léger coup de vieux, puisqu'il s'agit quand même de se débarrasser dans le livre de Marine Le Pen, qui est la concurrente directe d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, sachez-le, n'a rien à voir dans cette affaire sinistre par ailleurs. Donc, à part ce léger coup de vieux que vient de prendre le livre, moi j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que Schwartzman, c'est pas... Voilà, il est plutôt du côté San Antonio, on va dire. Et donc, il ne fait pas dans la légèreté. Mais il y a quand même des choses très renseignées, et notamment sur une page géniale sur la question des parrainages à la présidentielle, où on apprend, et moi je ne le savais pas, que François Hollande a décidé de la publicité des parrainages, qui crée beaucoup de problèmes chez les petits maires dans les petites communes. Et ça, c'est vraiment intéressant. On voit qu'il bosse, quoi, Schwartzman.
Oui.
Il a bossé, selon toi, Bernard ?
C'est inégal, Schwartzman, ça peut être formidable, donc effectivement, Casso,
Cheat,
c'était remarquable aussi. Là, l'idée, comme toujours, au départ, c'est une bonne idée, je suis désolé, ça reste une bonne idée, et je me suis bien amusé pendant 70-80 pages, mais pas seulement amusé, parce qu'on rigole, effectivement, des fois c'est un peu vasouillard, c'est un peu lourdingue, etc. Enfin, globalement, c'est assez plaisant à lire, Schwartzman, mais celui-là, il m'a tapé sur le système, parce qu'à un moment... Effectivement, comme disait Rebecca, c'est un livre politique aussi qui essaye de décrire un instant T de la situation politique en France. Et là, on se retrouve dans un amphi de la Sorbonne avec sur l'estrade un prof de LFI qui vous fait cours et qui vous emmerde avec une rhétorique insupportable, rentre dedans, je vais vous expliquer exactement pourquoi vous faites mal et pourquoi nous on fait bien, etc. Et ça m'a vraiment pompé l'air très très rapidement. Après, c'est pareil, c'est comme Séverine Chevalier, il y a des moments...
C'est pas vraiment comparable.
Non, pas du tout. Mais je dis qu'il y a des moments d'écriture géniaux. Par exemple, il se trouve que Michel-Édouard Leclerc a une bonne gueule, croisement entre Bourvil et VGE. C'est ça, Bourvil et VGE. c'est ça, on se demandait à quoi ressemblait Michel Édouard Leclerc.
Non, mais ce qui est intéressant à propos de Leclerc, c'est Patricia, que les médias l'utilisent.
Mais oui, il dit, je ne sais pas par quelle aberration un rédac-chef un jour a décidé qu'il serait pertinent de demander à un épicier supérieur ce qu'il pense de la situation économique. C'est vrai, il présente bien Leclerc. Il dispose en outre d'un certain talent de comédien avec ses airs de pleurnicher sans y toucher. Mais c'est vrai, tout est vrai. Donc Schwarzman, c'est bien. Sauf que celui-là, c'est pas un très bon. Voilà.
Patricia,
Leclerc avait ses entrées à un moment donné, on le sait tous, à l'Élysée. Hein. Il poussait la porte et il allait voir le président. Moi, je trouve ça quand même extrêmement drôle. Évidemment, c'est pas toujours d'une grande finesse, mais on peut dire aussi que les jeux de mots peut-être sont des pets de l'esprit, non ? C'est pas un peu ce qu'on dit ? Bon.
D'accord.
Non, mais bah, moi, je trouve que
c'est la punchline du nouveau les jeux de mots.
Ce qui dit quand l'esprit. Même de la démocratie, le problème avec la démocratie, c'est les élections, quoi. Et c'est leur idée fixe, c'est-à-dire que se faire élire, bah, ça coûte cher, et que donc tous les moyens sont bons pour récupérer du fric.
Compris les plus violents, en l'espèce.
Bien sûr. Alors là, on peut se dire qu'effectivement, il y a des aspects invraisemblables dans l'extravagant, au premier abord, de l'histoire. Sauf que c'est invraisemblable, façon du Reichstag, c'est invraisemblable façon assaut du Capitole, c'est-à-dire des trucs dont tu dis mais c'est pas possible, ça va pas arriver, ça ne peut pas arriver. Ouais. Eh ben oui, et la réalité a plus d'imagination que la fiction. Et puis un type qui passe de NTM à Alain Souchon, et ce qu'il dit sur Alain Souchon, moi j'adore. Il faut simplement lui dire que le niveau de France Inter, parce qu'il trouve qu'à un moment donné ça.
Oui, il est passé sur France Culture parce qu'il trouve.
Il est passé
que
sur France Culture après le départ de Daniel Mermet. Bon, il faut peut-être qu'il réécoute de temps en temps.
Bastion de Jackie Schwartzman est publié au Seuil dans la collection Cadre Noir. On va parler maintenant de Piège à loup, troisième roman du Norvégien Aslak Nord, qualifié par certains de nouveau maître du polar scandinave. Ce livre-ci, Piège à loup, se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale entre Berlin, Oslo, Londres. Et le premier chapitre, saisissant, est en Ukraine, sur le front de l'Est, en décembre 1941. On y est aux côtés de Henri Storm, un Norvégien germanophone engagé dans une division de la Waffen-SS pour lutter contre les bolcheviks. Les atrocités vécues au front par Henri vont ébranler ses convictions. Une fois rentré à Oslo, il tente d'entrer dans la résistance norvégienne, dont fait partie la femme qu'il aime. Commence alors un roman d'espionnage, donc de manipulation, et l'enjeu est le suivant. Percer le secret de nouvelles armes allemandes, des fusées, qui pourraient bien permettre au Reich d'écraser les Alliés. C'est un roman dense, haletant, avec une ambition documentaire, puisque les premières pages précisent que le récit est inspiré de faits réels. Patricia ?
Mais c'est absolument, moi j'ai envie alors là d'être vraiment dithyrambique, indépendamment du fait que je l'ai vu tout à l'heure à la Bourse et que...
Super sympa.
En ah non mais non, sympa je sais pas, mais en tout cas il a un physique de cinéma. Hein.
Ah, oui, oui.
Qu'est-ce qu'il est beau.
On est là pour parler d'écriture.
Je suis désolée, je ne lève pas le niveau, mais il est très beau. Non mais ce type, il a quand même été, si tu vois sa vie, alors qu'il n'a rien à voir avec le roman, mais il a été soldat en Bosnie dans
un bataillon d'élite. Parle de l'auteur, Aslak
Nord. Il a été ensuite journaliste en Afghanistan, au Moyen-Orient. Et alors, il paraît qu'il vit à Marseille. C'est pourquoi tout
mais
à l'heure,
on n'est pas là pour faire sa biographie.
Non, mais c'est intéressant quand même, parce que c'est pas innocent, le fait d'avoir été soldat lui-même. Mais je trouve que c'est une histoire d'une noirceur, mais de bout en bout, et le lire ici et maintenant, en ce début de printemps, dans un monde qui est en train de perdre complètement les pédales, je vous assure que c'est électrisant. Mais il y a à la fois c'est hyper documenté, il y a un déroulement chronologique, historique qui est absolument tragique, une étude de caractère qui va de l'ignominie à l'égoïsme. Il y a un tricotage tout à fait savant entre l'intime et puis ce rouleau compresseur qu'est l'histoire. Il y a des moments paroxystiques avec une exécution, puis c'est de l'humiliation, de la torture, de la jouissance dans une bataille qui se joue aussi psychologiquement. Moi, j'ai trouvé que ce livre était largement au-dessus du lot. Largement.
Arnaud.
C'est un roman d'espionnage plus qu'un polar. Ça fait penser vraiment beaucoup à la fameuse trilogie berlinoise du regretté Philippe Kerr, qui est d'ailleurs cité dans la bibliographie, aux côtés de Jonathan Little, Les Bienveillantes. Donc c'est un peu le contrepoint de la célèbre affaire Cicéron, dont Mankiewicz avait fait un très beau film. Ça se passe au même moment, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez un espion allemand en Angleterre qui fournit aux nazis les plans du débarquement, et là, c'est donc un espion qui fournit le point où on en est de la construction des V2 qui, évidemment, si les nazis avaient réussi, auraient sans doute gagné la guerre, par ailleurs. J'ai trouvé qu'il y avait un problème, moi, dans ce livre, c'est qu'il y a un peu trop de coïncidences. Je trouve que, dans un bon polar, et on devrait voter une loi pour dire, dans un bon polar, il ne devrait y avoir qu'une seule coïncidence permise. Au-delà d'une, ça commence vraiment...
Mais souffle-le à ton ami Trump. Il va te faire un décret dans la seconde.
Une seule coïncidence par polar. Là, il y en a quand même plusieurs. Cela dit, il y a une scène que je ne suis pas prêt d'oublier, qui est celle d'une résistante qui est en cellule, oui, et qui se suicide d'une manière totalement incroyable et que vous ne pouvez pas oublier. J'ai vu que donc, ce très beau monsieur était aussi très jeune, je te le dis, Patricia.
Ouais, il est très jeune.
Non. Avec tout ce qu'il a vécu, il ne peut pas être très jeune.
Il a 46 ans, je suis allée regarder.
Et donc,
c'est pas vrai.
Mais elle est intenable.
J'adore.
Et donc, je lui promets un bel avenir, même si je ne suis pas totalement convaincue.
Élisabeth,
moi, j'ai Nord, très...
46 ans.
J'ai le même âge que lui, c'est peut-être le début d'une belle histoire. Non, moi j'étais très, ça m'a énormément intéressée, notamment sur le plan historique, parce que c'est cette histoire des divisions Nordland, donc les Scandinaves qui combattaient auprès de la Waffen-SS, et effectivement, comme tu le disais, Rebecca, les premières pages sont absolument stupéfiantes, ces combats dans la neige par moins 30, et puis les images qui vont hanter Henri Storm.
Les soldats russes qui
les soldats russes dans leurs uniformes d'été laissés dehors, et parce que les morts ne sentent pas, et cette phrase, les morts ne sentent pas, qui revient, et là, qui marque vraiment la hantise, le traumatisme de ce personnage. Je trouve ça extrêmement fort. C'est aussi les derniers jours du Reich, donc du Troisième Reich, donc une espèce de déliquescence, la rivalité entre les différents groupuscules. Et surtout, moi, j'ai lu ce livre, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à aujourd'hui, parce que c'est l'alliance du fascisme et de la technologie.
D'une certaine façon, l'alliance du fascisme avec le brio de l'intelligence, c'est vraiment...
Et certains nazis qui sont passés à la NASA après.
Exactement, exactement.
Von Braun, le patron du programme V2. Hein.
Et je trouve que c'est très fin aussi, dans ce livre, dans ce qui séduit dans le fascisme, à savoir que la violence dans un régime fasciste, elle peut être justifiée, voire elle a de la valeur. Je crois que c'est dit plus ou moins textuellement comme ça dans le livre, et je trouve qu'à travers tous les personnages, il le montre extrêmement bien. Donc non, moi c'est un roman que j'ai pris énormément de plaisir à lire.
Bernard ?
Ah, moi aussi, c'est un excellent livre d'espionnage. Moi, en plus, c'est une période de l'histoire qui me fascine. Je suis d'ailleurs complètement estomaqué par le fait de constater que 80 ans après, il y a encore une telle production littéraire sur ça. Alors celui-là, celui de Noray, bon, d'abord il a une couverture absolument somptueuse, magnifique, enfin très impressionnante. Alors effectivement, il y a peut-être un petit peu trop d'heureux hasards, dirons-nous, mais ça passe très bien globalement sur l'épaisseur, sur le rythme et sur la manière de mener les choses. C'est vraiment un bouquin, vous mettez le nez dedans, vous allez avoir du mal à en sortir techniquement parlant. C'est un super bouquin, vraiment, c'est un super livre.
Piège à loup d'Aslak Nor, traduit du norvégien par Céline Roman-Monnier et publié par les éditions marseillaises Le Bruit du Monde. Et on termine avec Enua, H-E-N-U-A, de Marin Le Dain. Enua, ça veut dire la terre en marquisien, puisque ce roman noir se déroule dans l'archipel des Marquises. Et Bernard Poirette vient d'inonder la table du masculin.
Mais pas le micro, donc ça va.
Le livre s'ouvre sur des paysages magnifiques et dès le début, Marin Le Dain émaille son texte de mots marquisiens liés à la faune, la flore, la culture. Dans ce décor de rêve est découvert le cadavre d'une jeune femme, Payotoka O'Connor. Et pour élucider sa mort, Marin Le Dain met en scène un duo de flics. Stepano Morel, présenté comme un demi, c'est-à-dire un métis, dont le père est métropolitain et la mère originaire des Marquises. Morel, lui, ne sait rien de ce territoire, jusqu'alors il n'y avait jamais mis les pieds, d'où son association pour son enquête avec Poerava Wong, une lieutenante de gendarmerie native des Marquises. L'enquête va mener Morel à renouer avec ses racines et à découvrir la réalité d'une micro-société minée par la colonisation, les essais nucléaires, le trafic de drogue, le mépris de la nature et les violences domestiques, notamment contre les femmes. Nous sommes donc très loin de la carte postale. Je précise enfin que Marin Le Dain fut lauréate d'un des prix de Quai du Polar l'année dernière. Élisabeth.
Ah, j'étais très sensible à ce roman parce que je trouve que ce que réussit parfaitement Marin Le Dain, c'est l'utilisation de ce paysage assez inhabituel pour un polar, mais il ne sombre jamais, enfin, dans le travers de l'exotisme ou du folklore, jamais. C'est comme si on découvrait finalement cette île en même temps que Tepano Morel. Et donc les éléments de l'histoire de cette île sont distillés au fur et à mesure de façon très habile, je trouve. Donc effectivement, les traces de la colonisation, on apprend différentes choses comme ça, notamment, moi je ne savais pas que le tatouage avait été interdit pendant, je crois, quasiment un siècle, peut-être même plus d'un siècle.
C'est un roman où on apprend beaucoup de
choses. On apprend énormément de choses, mais c'est pas non plus un pensum. Je veux dire, c'est pas une fiche Wikipédia du tout.
Oui,
je trouve qu'il tresse ces éléments historiques de façon très habile, très subtile à sa narration. On est pris dans cette enquête, on suit les pas de Tepano Morel dans cette tentative de résoudre l'énigme du meurtre de cette femme, Payotaka, qui par ailleurs est un magnifique personnage féminin, je trouve, personnage justement qui essaye elle aussi d'échapper aux clichés, ceux de la vainée langoureuse et lascive, et qui va le payer très cher, qui a essayé d'être libre, qui est la mère d'un fils autiste, mais qui est quand même à la merci d'un homme blanc pour essayer de s'en sortir et de pouvoir élever son fils. Et finalement, il montre aussi de façon très subtile, je trouve, Marin Le Dain, comment la colonisation va se poursuivre par d'autres moyens. C'est une prédation, la prédation des femmes, mais aussi la prédation des terres, puisqu'il y a toute la question des espèces en voie de disparition, les oiseaux, c'est un thème très important dans le roman. Et donc, je trouve qu'il tisse tous ces éléments de façon vraiment très habile et avec une langue très sobre, toujours un peu à distance, comme s'il y avait un respect aussi pour ce territoire qui n'est pas vraiment le sien, mais qu'il connaît bien.
Et que Marin Le Dain connaît, lui, effectivement, très bien. Arnaud, t'as ton petit carnet ouvert ?
Oui, c'est un polar ethnographique, en fait. Hein. C'est Claude Lévi-Strauss qui mène l'enquête plutôt que le commissaire Maigret. Ça m'a fait un peu penser au livre d'Alice Zeniter sur la Nouvelle-Calédonie, à la rentrée dernière. Il y a cette même idée hein, de nous faire découvrir hein, pour 20 euros, c'est pas cher pour aller aux Marquises.
Et l'empreinte carbone.
Et découvrir, oui, en plus c'est bon pour l'empreinte carbone, et de découvrir les Marquises. Alors, c'est vrai que Jacques Brel chantait Le temps s'immobilise aux Marquises.
Et gémir n'est pas de mise.
Oui, mais surtout le temps s'immobilise aux Marquises, parce que c'est vrai que le temps s'immobilise aussi un peu dans ce polar. Bon.
Oh non.
Mais quand même, il y a deux très belles choses. La première, c'est le statut même de l'enquêteur, puisque sa mère est née aux Marquises, mais en est partie. Définitivement pour aller vivre en France. Et lui, d'ailleurs, découvre en fait sa terre maternelle. Alors, d'où tout ce qui le hante, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une terre maternelle dont votre mère est partie.
Et dont elle ne vous a rien dit.
Et ça, en fait.
Que la mère ne lui a rien raconté.
Voilà, ouais, elle ne lui a rien raconté. Et c'est vraiment. On voit qu'il est structuré par cette question. Et ça, c'est très beau. Et l'autre chose que j'ai trouvée très belle, c'est comment l'auteur montre comment les jeunes générations de marquisiens et de marquisiennes sont en train de renouer finalement avec les rites ancestraux, avec notamment une très très belle affaire de collier qui est vraiment...
Qui est compliqué. Voilà. Hein.
Et puis, je dois dire que j'ai fait beaucoup de progrès en
langue, marquisien.
Marquisien, oui. Et je sais que dès que j'arriverai, il faut que je demande du pacalolo.
Du pacalolo, bien
du
sûr.
du pacalolo, voilà.
Bernard.
Alors, moi, je n'ai pas tout lu de Marin Le Dain. J'ai l'impression qu'il se met peut-être dans le sillage de Caryl Ferret, qui voyage beaucoup dans le monde, qui se pose quelque part, et puis qui, de l'endroit où il s'est assis, tire une histoire et un roman. Tant mieux pour lui. En tout cas, celui-là, moi, je le trouve très réussi. Un poil long. Il y a 80 pages de trop, sans doute. C'est pour ça que peut-être le temps s'immobilise aux Marquises. Mais surtout, moi, ce qui est certain, c'est qu'en fermant le bouquin, qui est très beau, d'ailleurs, en plus, une couverture géniale, on a envie de tout sauf d'aller aux Marquises. Excusez-moi. Parce que non seulement c'est à 22 000 km, donc c'est un enfer, mais surtout, c'est une insularité oppressante. C'est horrible. Ils se connaissent tous. Ils ne peuvent pas mettre un pied devant l'autre sans savoir que le voisin le sait.
C'est une petite cage.
Mais c'est horrible. C'est une petite cage, quoi. Et vous êtes paumé au milieu du Pacifique. Vous ne pouvez pas en sortir. Enfin bon.
Il y a des coins qui ont l'air très beaux, quand même.
Oui, non, mais je ne dis pas que c'est pas beau.
Tu penses si Anne Hidalgo avait lu le bouquin avant d'aller quand même contrôler les surfeurs, elle n'y serait pas allée, tu penses ?
Mais je ne sais pas. Mais elle y est allée gratos,
elle. Elle est citée aussi dans le livre. Elle est citée dans le délibéré ce soir, quand même.
C'est vrai, deux fois. Oui.
C'est sa fête. Hein.
Patricia.
Patricia, c'est un bon livre. Hein,
non, mais
je suis absolument
d'accord avec ce que vous avez dit les uns et les autres. Il y a une scène que je retiendrai, c'est chez un jeune tatoueur qui explique bien comment on a réduit l'histoire des marquises à la colonisation. Évidemment, sans du tout mettre de côté ces effets délétères et terribles, mais c'est comme si rien ne s'était passé avant. Rien n'a été consigné pendant 1000 ans. Les chants, les légendes, les tatouages aux motifs très symboliques. Et cette femme, justement, qui, elle, fabrique ses colliers en graines, elle a à ce sujet cette phrase: mon livre, c'est ma mémoire. Un très beau livre.
Enua de Marin Le Dain est publié chez Gallimard dans la collection Série Noire qui fête ses 80 ans en 2025. Depuis le théâtre Comédie Odéon pour le festival Quai du Polar, c'est l'heure de votre coup de cœur et voici ce qui est à lire selon Bernard Poirette. Vas-y Bernard.
La petite fasciste, bien sûr, de Jérôme Leroy, ouais. À la manufacture de livres. Alors, petit livre, donc comme celui de Séverine Chevalier, hein, que je vous recommande vivement, mais sauf que celui-là, il n'y a pas besoin de lire les deux fois, aucun problème. Vous rentrez dedans, vous comprenez tout, c'est sujet, verbe, complément, il n'y a pas de prise de chou comme ça, donc c'est parfait et c'est formidable. Allez, je vous la fais courte, c'est l'histoire d'une petite fasciste, donc elle a 20 ans, elle s'appelle Francesca Kromlinck, et elle habite dans un bled du Nord-Pas-de-Calais, qui est un bled inventé, ok, et elle fait partie des Lions des Flandres, qui est un groupuscule d'extrême droite, qui va cogner ferme contre contre les gauchos de tout genre, et puis malheureusement, elle est amoureuse d'un arabe, voilà. C'est comme ça. Elle est amoureuse d'un arabe. Et l'arabe en question, eh ben, il se fait dessouder par ses petits camarades du clan d'extrême droite. Et quand elle découvre qui a tué son amour, elle bascule. Et le reste, je ne vous le dis pas. Et c'est un bouquin absolument formidable, absolument génial. La petite fasciste, donc, de Jérôme Leroy, qui n'est pas manchot du tout. Hein. Vous savez, Jérôme Leroy, c'est un des très, très bons Français dans le monde du noir, à la manufacture de livres.
Patricia.
Illusion tragique de Gilda Piersanti. La dame est italienne. Elle a d'ailleurs reçu le prix des lecteurs ici même il y a quelques années pour ce livre, Illusion tragique, qui est en poche. Ça se passe à Rome et c'est l'histoire alors vraiment d'un petit garçon, plus jeune que ta petite fasciste, Mario, et c'est raconté du point de vue de l'enfant. C'est-à-dire que tous les soirs, il va monter, vous savez, à Rome, il y a des terrasses au-dessus des maisons, et il va monter sur cette terrasse et tous les soirs avec un copain, ils vont voir quoi ? Ils vont voir un homme qui est censé être célibataire et ne recevoir jamais personne, peigner une femme absolument sublime dans une baignoire. La suite, vous la découvrirez. Il va entrer avec son copain dans l'appartement du monsieur parce qu'il va imaginer des tas de choses. Il va se dire, mais cette femme, c'est une prisonnière. Il va vouloir aller la libérer. Le tout, c'est de ressortir de l'appartement. Et ça va lui apprendre à devenir quelqu'un, à savoir qui il est.
Et toi, Arnaud, tu as choisi un livre de Fabio Viscogliosi.
Oui, qui s'appelle « Les cambrioleurs ». Alors, je l'ai choisi pour deux raisons. La première, c'est parce que ça se passe à Lyon, dans les années 80. Alors, si il y a
sur des... fond de New Wave.
Si vous êtes boomer ou boomeuse lyonnaise, allez-y. Ça va vous rappeler des souvenirs.
Mais même si vous ne l'êtes pas.
Ouais. C'est vraiment pas loin du polar. C'est un petit livre aussi. Hein. Ça fait 150 pages. Ça se lit dans un Paris-Lyon sans problème. Si, en plus,
ou Lyon-Paris, hein, c'est pareil.
Ouais. Et si la SNCF a un peu de retard, vous êtes sûr de le terminer. Donc... C'est l'histoire d'un cambriolage, fait par des jeunes qui se vengent d'un patron indélicat. Et dans ce cambriolage, ils tombent sur ce qui ressemble vraiment fortement à une œuvre d'art, mais pas n'importe laquelle, signée par les plus grands surréalistes. Et c'est très, ligne claire, justement, comme on dit en BD dans les années 80. Je trouve qu'il y a un mot dans la critique littéraire pour parler de ce genre de livre, c'est un petit bijou, voilà.
Les cambrioleurs de Fabio Viscogliosi chez Actes Sud. Elisabeth.
Alors moi, mon coup de cœur, c'est « On ne sait rien de toi » de Fabrice Tassel, qui se trouve être un de mes collègues au Nouvel Obs. Mais j'ai de la chance, comme dirait Bernard, il n'est pas manchot, il écrit très bien. Donc c'est vraiment très sincèrement que je choisis son livre paru à la Manufacture de Livres.
Encore
comme,
la Manufacture.
Et oui, wow. Oui, on a rien touché pour ça. Le roman commence le jour des 50 ans de Charles Perrier, qui est un grand flic, directeur de l'IGPN, la police des polices. Alors il est là, entouré de sa famille, de sa femme aimante, de ses trois enfants. Et en même temps... dans cette très belle scène, eh bien, lui, Charles Perrier, il se dit qu'il comprend mieux cet ami qui lui avait dit un jour avoir eu envie de se tirer une balle en voyant lui aussi sa propre famille parfaite. Alors on se demande, mais d'où vient cette noirceur chez cet homme? On se demande aussi pourquoi sa fille aînée, Alexandra, se montre aussi distante et froide avec lui. Et en fait, Fabrice Tassel va recomposer le puzzle de cet homme qui est une véritable énigme, même si en apparence il est très transparent et droit. Et avec plein d'allers-retours comme ça dans différentes temporalités, on recompose ce personnage, tous les morceaux du puzzle, et à la fin on obtient un roman extrêmement subtil, d'une très grande finesse psychologique sur l'emprise. C'est vraiment un très très grand roman, On ne sait rien de toi, de Fabrice Tassel à la Manufacture de Livres.
Donc le gars dont on ne sait rien de toi, c'est le flic en question là,
entre autres,
d'accord, ok.
Et je termine avec Crimi, bande dessinée copieuse et virtuose qui se déroule dans l'Allemagne interlope de la fin des années 20. Crimi, ça s'écrit K-R-I-M-I et ça veut dire polar en allemand. Oui. Le cœur du livre est l'un des premiers, si ce n'est le premier film noir parlant de l'histoire du cinéma mondial, à savoir M le maudit de Fritz Lang. Et alors Thibaut Vermeau, qui est aussi romancier, et Alex W. Inker, qui est dessinateur, ont imaginé la genèse de M le maudit et il la relie à un pacte faustien que Fritz Lang aurait conclu avec un inspecteur de police. Et cet inspecteur entraîne le cinéaste dans l'histoire d'un tueur en série qui terrorise autant qu'il fascine l'Allemagne de l'époque. Alors comment Fritz Lang va faire du cinéma avec ce crime sur fond de montée du nazisme? Comment la vie personnelle de Fritz Lang et la mort mystérieuse de sa première femme va jouer sur cette histoire? C'est tout l'enjeu, c'est à la fois très érudit, mais aussi très accessible. Il y a du suspense autant qu'une réflexion sur le cinéma et l'esthétique expressionniste de l'époque. Et j'ajoute que c'est un objet magnifique. Crimi, donc, de Thibaut Vermeau et Alex W. Inker. Ça, c'est édité par Sarbacane. L'éco-auteur du masque aujourd'hui était Arnaud Vivian, Patricia Martin, Elisabeth Philippe et Bernard Poirette. Merci aux Lyonnais qui se sont déplacés au théâtre Comédie Odéon pour assister à cet épisode du Masque depuis Caddy Polar. Les prochains enregistrements de l'émission auront lieu la semaine prochaine, jeudi 10 avril, donc au Théâtre de l'Alliance Française, où nous débattrons de films et de livres. Guillaume Giraud réalise Le Masque et la Plume et c'était avec Christophe Papon, Éric Audra et Jérôme Casamayou. Aujourd'hui, Ilinka Negulesco prépare l'émission avec l'aide indispensable de Nina Malray. Merci au Théâtre Comédie Odéon pour l'accueil et rendez-vous dimanche prochain sur France Inter, évidemment.